je vais encore ajouter deux, trois témoignages qui parlent de la puissance de Dieu. Et on a dit plusieurs fois au début de la réunion que rien n'est impossible à Dieu. Et j'avais noté moi cela, sans savoir ce qui allait être dit, évidemment, à plusieurs reprises dans les Écritures et par l'expérience d'homme de Dieu dans la Bible, il nous est effectivement précisé que rien n'est impossible à Dieu. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Non, son bras n'est pas trop court pour agir. Son bras est puissant. Le psalmiste déclare: « Le Seigneur dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux de la mer devant eux, qui dirigea son peuple au travers des flots sans qu'il bronche. » Quel Dieu ! Dites, quel Dieu ! Alors, je voudrais parler de trois témoignages que nous avons vécus il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre dernier, au Canada, où nous étions pour notre 12e tournée. Et nous faisions notre séminaire à Montmagny, près de Québec. Et pendant le séminaire, le Seigneur savait qu'il y avait là une personne qui souffrait du cancer du sein, qui avait d'ailleurs atteint les ganglions lymphatiques. Elle avait subi plusieurs séances de chimiothérapie, 20 traitements de radiothérapie, et elle se demandait si cette maladie n'allait pas la conduire à la mort. Elle s'attendait à cela, plutôt. Et pendant cette réunion-là, le Seigneur m'a donné cette parole de connaissance, qu'il détruisait des cellules cancéreuses. J'ai pas dit où. Et au moment où cette parole a été dite, cette dame a pris cette parole pour elle et elle a reçu la guérison. Elle a arrêté tout traitement et elle se porte bien aujourd'hui. Elle va bien. Alors, comme vous avez vu ce matin, le Seigneur a touché aussi hier. Eh bien, il est le même Seigneur encore. Rien ne lui résiste. Quand il décide de détruire des cellules, avec un clin d'œil seulement, le bout de son doigt, il le fait. Un seul mot et tout lui obéit. Il est le Créateur. Notre Créateur. Alléluia, à lui la gloire. Et puis, un deuxième témoignage, à cette même réunion, c'est une même réunion en tout cas, il y avait la sœur de cette dame. Il y avait aussi sa maman. Et la sœur de cette dame, elle souffrait depuis 36 ans, de crise d'épilepsie journalière. C'était une femme qui faisait au moins une crise par jour et qui vomissait et qui faisait des cris d'animaux. C'était vraiment un gros cas dont la médecine n'a pas pu faire face du tout. Depuis, la médecine était complètement dépassée avec ce genre de situation. Et le Seigneur m'a donné cette parole de connaissance. Je touche quelqu'un qui a une tache au cerveau, qui lui provoque de terribles crises, genre épileptiques. Et c'était elle, à la fin de la réunion, elle est venue en pleurant, en me disant « c'est moi qui ai la tache au cerveau ». Et effectivement, depuis ce jour-là, elle faisait des crises une par jour, rappelez-vous. Depuis 36 ans, plus une seule crise depuis ce jour-là.
Merci, Seigneur.
Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia. L'impossible est possible avec le Seigneur. Le Seigneur n'a jamais dit son dernier mot dans une situation.
Amen.
Nous pouvons toujours nous attendre encore et encore à l'attouchement du Seigneur. Et même quand il nous a déjà touchés X fois, pourquoi pas encore aujourd'hui? Pourquoi pas encore maintenant? Est-ce qu'on va une fois chez le médecin dans sa vie? Et puis le Seigneur, il faudrait qu'il nous touche qu'une seule fois. Si tu as un autre problème, si c'est... tu reviens. Tu reviens au pied du Seigneur. Il t'attend toujours. Il est toujours là, les bras ouverts pour toi. Alors Seigneur, c'est vrai que tu es un bon médecin, le grand médecin, le médecin des médecins. Et c'était beau aussi parce qu'à un autre séminaire, toujours au mois de septembre l'année dernière, à Montréal cette fois, il y avait un médecin qui a raconté qu'il avait été touché l'année dernière par une parole de connaissance. Et ce médecin-là souffrait de problèmes de la colonne vertébrale, encore assez jeune, hein, dans la quarantaine, j'estime. Et donc, il souffrait de la colonne vertébrale et il a raconté que, donc cette année, enfin l'année dernière, en 2005, il a raconté qu'en 2004, une parole de connaissance avait été donnée que le Seigneur touchait quelqu'un qui avait un problème de colonne vertébrale et c'était lui. Et il a été touché par le Seigneur. Et une année après, il a dit qu'il n'avait plus de douleur, alors qu'il souffrait depuis des années de ce problème. Et on lui avait imposé les mains, mais apparemment, le Seigneur avait choisi une autre façon de le toucher. Le Seigneur a ses moyens, lui. C'est lui qui décide. Et il a reçu. Alors, il était très, très heureux. Gloire au Seigneur. Et alors, témoignage en tout cas du Canada. C'est que aussi à cette même rencontre de Montmagny, Québec, cette année, donc l'année dernière, 2005, en septembre, il y a une grand-maman qui est venue me voir à la fin d'une réunion. Et puis, elle me dit, j'ai une bonne nouvelle à vous raconter. C'est merveilleux ce que le Seigneur a fait l'année dernière, elle aussi. J'étais venue vous voir, elle me dit, à la fin d'une réunion, et je vous ai demandé de prier avec moi pour ma petite fille de 15 ans qui est sourde. Et sourde de naissance. Elle est dans une école de sourds. Alors, toutes les deux, la petite grand-maman et moi, on avait simplement prié le Seigneur et on lui a demandé, Seigneur, toi qui es le créateur de l'oreille, créateur de tous nos organes, fais quelque chose dans cette petite fille. Tout ça, une simple prière, toute simple. Et là, elle vient dire un an après ce qui s'est passé, cette grand-maman. La petite fille n'était pas du tout à La Réunion, elle était à des centaines de kilomètres. Mais la grand-maman a pris ça pour sa petite fille et par la foi, elle est rentrée à la maison. Arrivée à la maison, sa petite fille, sourde, vient la voir. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut enclencher le bouton de la télévision. Elle entendait un tout petit peu. Alors, elle devait mettre à fond pour entendre à peine un petit son. Et donc, elle presse sur le bouton, la jeune fille sourde. Elle appelle sa grand-maman. Grand-maman, grand-maman, viens vite voir. J'entends le clic du bouton. Chose qu'elle n'a jamais entendue de sa vie. Et alors, bien sûr, elle mettait à fond. Vite, elle a redressé parce que c'était bien trop fort. Alors, la grand-maman est venue dire cette fois. Vous savez, on avait prié. Gloire à Dieu. Le Seigneur a ouvert les oreilles de ma petite fille. Et toute la ville en est témoin, et l'école de sourds, et tout le monde, et les parents, et l'église, et tout le monde. Alors à lui la gloire. Alléluia. À lui la gloire.
Oh,
des paroles extrêmement touchantes de l'apôtre. Nous voyons l'apôtre ouvrir son cœur, exprimer ses convictions, son caractère, comment il a travaillé pour le Seigneur, dans un langage qui nous touche tous. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de propre suffisance. C'est quelque chose qui vient du plus profond de lui-même. Et il essaye d'expliquer cela à des hommes qu'il ne verra plus. Et il dit ceci, vous savez, de verset 17, 18, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché, que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Nous reviendrons sur ces versets dans quelques instants et nous allons découvrir sept traits de caractère de l'apôtre Paul. Brièvement, nous allons les voir. Mais dans ces quelques versets, nous allons voir ces traits de caractère qui révèlent ce qu'est un vrai serviteur de Dieu. Ensuite, il est dit, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant ce qui m'y arrivera. Cependant, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé jour et nuit d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassèrent, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Quelle parole, quel témoignage. Chaque mot est important. Chaque mot est important. Et il parlait là comme un prophète. Je sais qu'au milieu de vous, il s'introduira des loups cruels qu'ils n'épargneront pas le troupeau. Prenez garde, veillez. Et ces messages, ce message est encore valable aujourd'hui, n'est-ce pas vrai ? Aujourd'hui encore, nous en avons besoin, j'en ai besoin. Et comme c'est la dernière convention, alors je pense que plusieurs d'entre nous, vous ne verrez certainement plus notre visage sur cette terre. Mais vous devez savoir qu'on a passé au milieu de vous en prêchant l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on vous exhorte, comme Paul l'a fait, à rester fidèle à ce message, à cet évangile de la gloire, sans rien changer, sans rien ajouter, sans rien retrancher, que nous puissions nous revoir un jour dans ce ciel de gloire. Si nous ne vous revoyons pas ici, nous vous donnons rendez-vous dans le ciel. Mais que chacun reste fidèle à son serviteur, à son maître, à son Seigneur et à son Sauveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et maintenant, j'aimerais simplement vous donner quelques pensées sur ces qualités qui étaient en lui. Les marques d'un vrai serviteur de Dieu. J'en ai noté sept. Sept. À partir du verset 1, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur. » Soulignez déjà « servant le Seigneur » ici. Nous trouvons une première qualité importante. Sa première qualité, celle-ci, c'était une vie entièrement consacrée à Dieu. L'expression « servir le Seigneur » ici, dans le grec, a cette pensée d'un esclave qui est livré entièrement à son maître et qui suit son maître volontairement de tout son cœur. Bien souvent, l'apôtre Paul s'appelait « Je suis l'esclave de Jésus-Christ ». Quand il y parlait de serviteur, le mot grec veut dire « doulos ». En grec, c'est « serviteur », c'est « esclave ». Mais non pas un esclave paralysé complètement, mais un esclave d'amour. C'est volontairement qu'il s'est livré à son maître. Volontairement, entièrement, totalement, définitivement, éternellement. Voilà une première qualité. Servant le Seigneur. Et quand les anciens ont entendu cela, ils ont vu, ils ont compris ce que Paul voulait leur dire, qu'il était un esclave volontaire du maître et qu'il avait entièrement livré sa vie entre les mains du Seigneur, devenir son esclave d'amour pour faire sa volonté, quoi qu'il en coûte. « Je sais que des tribulations m'attendent, disait-il, mais peu m'importe. » Il n'avait pas peur de mourir. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà accepté de mourir pour le Seigneur bien avant. Nous avons peur de mourir bien souvent parce que nous n'avons pas encore réglé ce problème. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver ? Mais c'est avant de partir qu'il faut régler ce problème. La crainte de la mort disparaîtra quand un jour on dira au Seigneur, « Me voici Seigneur, je suis prêt non seulement à vivre pour toi, mais aussi à mourir pour toi. » Et laissez-moi vous dire, cette prière nous l'avons fait déjà bien souvent. Bien souvent, c'est pourquoi quand nous allons, il n'y a aucune crainte de notre part. Non, d'être sage, bien sûr, et ne pas nous mettre dans la gueule du loup. Mais lorsque nous sommes envoyés par le Seigneur, si c'est pour vivre, tant mieux, si c'est pour mourir, c'est la volonté du Seigneur qui s'accomplira. Il n'y a pas de crainte de la mort, parce que ce problème a été réglé. Nous avons décidé devant Dieu, non seulement de vivre pour le Seigneur, mais encore de mourir pour le Seigneur. Alléluia. Donc c'était un homme qui, entièrement consacré, tout commence par là. Dans le ministère ou dans une vie chrétienne, il n'y a pas besoin d'être dans le ministère pour servir le Seigneur. Dans le ministère, on le sert à plein temps, mais tout le monde, nous pouvons le servir là où nous sommes. Et combien disent, oh oui, mais moi je ne suis pas pasteur, missionnaire ou prédicateur, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu peux le servir le Seigneur là où tu es et de merveilleuse façon. La seule condition, c'est l'esprit de consécration totale d'un esclave qui se donne volontairement et par amour à son maître. Vous savez, beaucoup de chrétiens offrent leur péché au Seigneur, et c'est bien. Mais il ne faut pas seulement offrir son péché, il faut offrir sa volonté. Sa volonté. Me voici, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est ainsi la mentalité de cet esclave. Maître, je suis à toi désormais. Ce n'est pas ce que je veux qui compte, c'est ce que tu veux. Et il l'avait fait sincèrement, profondément. Quoi qu'il en coûte, c'est une première qualité. Avez-vous réglé ce problème? Il ne faut pas le faire à la légère. Mais quelle libération quand on a accepté de passer par là. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Il n'y a plus personne qui peut vous arrêter. Celui qui craint Dieu ne craint plus personne d'autre. C'est la crainte de Dieu qui nous délivre de la crainte des hommes. Mais la crainte de l'homme tend un piège, nous dit la parole de Dieu. Tend un piège. Justement, celui que tu crains et que tu cherches sa protection, c'est celui-là qui un jour te fera tomber. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Voyons une deuxième qualité maintenant. Servant le Seigneur en... Qu'est-ce que vous avez dans votre Bible? En toute... Ah, soulignez bien ce mot maintenant. Deuxième qualité. Paul avait un esprit humble, en toute humilité. N'est-ce pas merveilleux? Et là, il y a une qualité importante. La plupart des problèmes dans les églises et la plupart des hérésies aussi dans les églises proviennent de cet esprit orgueilleux. Oui. Et le diable en profite et vient à l'oreille d'un serviteur, par exemple, et lui dit « Attention, je vais te donner une révélation extraordinaire. Une révélation que personne ne connaît, toi seul. Et tu seras mon dépositaire. Et je vais t'envoyer. » Si vous êtes orgueilleux, qu'est-ce qui se passe? Oh, extraordinaire. Je suis le seul, moi? Oui, tu es le seul. Il n'y a que toi qui le mérites. Les autres ne sont pas capables. Tous ceux qui sont à côté de toi, ils ne sont rien du tout. Toi, tu es un vrai. Toi, je vais te donner quelque chose. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Et alors, si vous êtes orgueilleux, vous acceptez ça. Et cette pensée-là peut littéralement vous détruire. Littéralement vous détruire. Et c'est ainsi que tous ceux qui sont dans les hérésies, dans les fausses doctrines, vous savez comment ils réagissent quand ils sont là-dedans? Mais ils vous regardent de haut, tous ces gens-là. Ils vous disent, mais vous n'avez pas la révélation qu'on a. Vous n'avez pas la connaissance qu'on a. Vous ne savez rien. Vous n'avez pas connu cela? Malheureusement que si. On vous regarde d'en haut, on dit, t'as pas cette révélation-là? Tu connais pas ça? Dieu nous a montré cela. Ah bon? À toi? Ah oui, nous, parce que toi, tu le mérites pas. Et c'est l'orgueil qui est là. Et ensuite, on vous regarde d'en haut pensant qu'on est les seuls un peu à être les meilleurs devant Dieu. Et ça, c'est le piège tragique dans lequel beaucoup de serviteurs et de chrétiens sont tombés. Et c'est pourquoi Paul commence tout de suite en disant « Serviteur du Seigneur, le servant en toute humilité ». Et c'est parce qu'il n'y a pas cet esprit d'humilité qu'il y a une telle confusion dans l'Église aujourd'hui. Et malheureusement, elle existera encore. Parce qu'il n'y a pas cet esprit d'humilité. Quand on fait une erreur, qui est assez humble pour reconnaître ses erreurs? Ça, c'est autre chose. Hein? Ça peut durer 10 ans, 15 ans pour accepter une erreur. Et quand on accepte, on dit oui, d'accord, oui, mais, c'est oui, mais. on accepte l'erreur, mais c'est toujours la faute de l'autre. Jamais on accepte sa propre erreur comme cela. C'est toujours en vue aussi de se défendre ou de se protéger. Est-ce que ça n'existe pas aujourd'hui, cela ? Malheureusement, ça pullule. Et c'est pourquoi il y a tant de problèmes, en toute humilité. Vous savez, l'apôtre, il aurait pu dire, là, et là, les prédicateurs, là, vous êtes des jeûneurs encore, vous. C'est jeûné, là. Mais hop, ici, je vais vous montrer un peu qui je suis, moi. Et là, vous devez savoir que, attends, vous n'allez plus me voir. Mais vous savez que j'ai fondé des milliers d'églises. Vous savez que j'ai eu des miracles extraordinaires. Vous savez que j'ai formé beaucoup de prédicateurs. Vous savez que j'ai eu une vision de Jésus. Vous savez que j'ai eu tout cela. Est-ce qu'il a fait tout cela ? Rien. Il a simplement exprimé son amour pour le Seigneur et son humilité. Il n'y avait rien pour se vanter. Tout était pour que Dieu seul soit glorifié dans sa vie. Une deuxième qualité, c'est l'humilité. Et pourquoi certains chrétiens et prédicateurs ne peuvent pas être utilisés ? À cause de l'orgueil, tout simplement. Tout simplement. Vous devez veiller, je dois veiller. Si nous pensons que nous sommes humbles, alors c'est la preuve déjà que nous sommes des orgueilleux. Nous devons constamment nous mettre à ses pieds et lui donner toujours toute la gloire. Toute la gloire doit lui en revenir. Et ne pas penser que nous sommes meilleurs que les autres. Attention, car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Cette qualité-là, nous devons la rechercher, mes amis. Car Dieu se révèle aux humbles, mais les orgueilleux, il ne peut pas les voir de loin. Un esprit humble. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dans votre Bible ? Après, qu'est-ce qu'il y a ? Avec larmes. Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes. Soulignez avec larmes maintenant. Larmes. Et ici, qu'est-ce que vous voyez comme qualité ? Un esprit de compassion. Un esprit compatissant avec larmes. Voyez-vous, c'était quelqu'un qui n'avait pas honte. Aujourd'hui, quand quelqu'un a des larmes, on pense que c'est quelqu'un qui est faible. Mais là, il exprime vraiment sa compassion. Et c'était là aussi une des clés de son ministère. Et vous vous rappelez de Jésus ? Quand il voyait la foule, il était ému de compassion et il guérissait les malades. La compassion. Il les exhortait avec larmes. N'est-ce pas merveilleux ? Cela... C'était du plus profond de son être qu'il s'exprimait. Et dans un ministère, dans quoi que ce soit, s'il n'y a pas de compassion, il vaut mieux rester à la maison. Il vaut mieux rester à la maison. Il faut absolument que vous puissiez parler aux gens comme si c'était vos propres enfants ou vos propres parents, votre propre papa, votre propre maman. Dès le début, dans notre ministère, le Seigneur m'a montré cela. Pourquoi on appelait l'œuvre compassion, compassion ? Il y a une origine à cela. On n'a pas inventé le mot. À ce moment-là, nous prions beaucoup pour les malades. Et comme il fallait s'organiser en association, il fallait donner un nom. Et comme on voyageait beaucoup, y compris beaucoup pour les malades. Et pendant la prière pour les malades, le Seigneur m'avait montré que si tu veux avoir des résultats et que Dieu bénisse les prières pour les malades, tu dois prier comme à une dame, comme si c'était ta propre maman. Tu dois prier à un monsieur, comme si c'était ton propre papa. Tu dois prier à un jeune homme, comme si c'était ton propre fils. Tu dois prier pour une jeune fille, comme si c'était ta propre fille. Et je vous assure, quand vous priez comme cela, tout change. Il n'y a plus de prière ritournelle. Quand vous réalisez que c'était, quand vous priez pour les vôtres, est-ce que vous ne priez pas avec compassion ? Est-ce que les larmes ne viennent pas ? Ben, il faut faire la même chose avec les autres. Et c'est ce que Paul faisait, avec larmes. J'ai noté le témoignage ici d'un officier de l'armée du salut du temps du général Booth en Angleterre. Un officier se plaignait de ce que son ministère n'était pas vraiment béni, et là où il était, l'endroit où il était un endroit très dur. Et il avait prié, 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 sans résultat. Et il a envoyé un mot au général, à son général, Booth. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Booth lui a envoyé un message, en trois mots. Essayez les larmes. Trois mots. Essayez les larmes. C'était tout. Et nous savons que le ministère de Booth était un ministère de compassion, n'est-ce pas vrai? Quand vous voyez l'armée du salut à ses débuts, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Leur devise était « sang et feu ». Il y avait une consécration. Il y avait un feu extraordinaire. Une compassion pour les perdus, les prostituées, les drogués, tout cela. Un ministère extraordinaire. Sans compassion, nous n'allons pas loin. C'est quand on est ému de compassion que l'Esprit de Dieu commence à agir. Écoutez-moi bien. 1 Corinthiens 12 et 14, ce sont des chapitres sur les dons spirituels. Mais entre ces deux chapitres, il y a 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre de l'amour. Comme si Dieu voulait nous dire, tu verras les dons de l'Esprit et la puissance de Dieu agir dans ta vie si tu pries, tu agis avec amour. Si la compassion n'est pas dans ton cœur, tout ce que tu feras sera stérile. Et toi-même, tu te décourageras bien vite si cette compassion n'est pas là. Et j'ai remarqué, chaque fois que la compassion nous saisit, eh bien, l'Esprit de Dieu est libre d'agir. Et Dieu peut faire de grandes choses. Mais chaque fois que notre cœur est sec et qu'on essaye de faire quelque chose comme cela, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Il ne se passe pas grand-chose. Et on est découragé. C'est ce qui se passait avec cet officier. Essayez les larmes. C'est peut-être ce conseil que Dieu vous donne cet après-midi. Es-tu découragé? As-tu des combats? Réalises-tu que ta vie chrétienne est stérile? Essaye les larmes. Manifeste une plus grande compassion. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas dire la vérité, au contraire. Plus tu as de la compassion, plus tu diras la vérité. Mais tu dois la dire avec vérité. Prêchant la vérité dans la charité, nous dit l'apôtre. C'est là la clé pour que Dieu agisse avec larmes. C'est là quelque chose d'important. Nous devons veiller à cela et je dois veiller à cela. Quatrièmement, qu'est-ce que vous avez après? Et au milieu des qui que me suscitaient les embûches des justes, les épreuves. Soulignez épreuves maintenant. Il y a là la quatrième qualité de Paul au milieu des épreuves. C'était donc un homme éprouvé et testé. C'était les Juifs qui le testaient, qui l'éprouvaient, mais en définitive, c'était Dieu qui le testait aussi. Et un jour, j'ai entendu cette pensée, c'est dans l'épreuve que l'on fait ses preuves. Cela est valable pour chacun d'entre nous. Pour chaque serviteur de Dieu, chaque chrétien, c'est dans l'épreuve que tu fais tes preuves. Et nous, malheureusement, on fuit l'épreuve. On baisse la tête et on attend que ça passe. Et on dit, Seigneur, délivre-moi des épreuves. Mais le Seigneur n'agit pas comme ça. Parfois, l'épreuve disparaît. Mais parfois, l'épreuve ne disparaît pas. Mais c'est toi qui dois changer dans l'épreuve. Ça, c'est autre chose. Si toi, tu as le bon comportement dans l'épreuve, l'épreuve ne te détruira plus. Au contraire, c'est dans l'épreuve que tu feras tes preuves, que Dieu va te former. Le mot grec pour épreuve dans le texte grec veut dire perasmos. Et ce mot a deux sens. Il veut dire être le but de l'épreuve, c'est de nous purifier et de nous fortifier. Mais jamais de nous détruire. Nous, nous pensons que l'épreuve est là pour nous détruire. Et c'est pourquoi nous craignons cela. Et nous n'apprenons rien de nos épreuves. Et tant que nous n'apprenons pas de nos épreuves, eh bien, nous serons toujours éprouvés. Sans jamais en sortir. Un jour, j'ai entendu un serviteur de Dieu qui disait, et qui avait beaucoup d'épreuves à ce moment-là, et qui se frottait les mains en disant, je me réjouis de voir comment le Seigneur va intervenir dans cette histoire. Je me réjouis de voir comment le Seigneur va intervenir. N'est-ce pas merveilleux? Tandis que nous, dans les épreuves, oh Seigneur, aie pitié de moi. Délivre-moi. Fais quelque chose. Je ne sais plus où j'en suis. C'est tout à fait autre chose. On ne connaît pas le but des épreuves. Et si tu veux servir le Seigneur, qui que tu sois, c'est dans l'épreuve, que tu dois faire tes preuves. Est-ce qu'on confie des grandes responsabilités à un novice, dans une usine ou dans n'importe quoi? Est-ce qu'on offre ça au premier qui vient? Dis-moi, directeur, vous faites rien, moi, vous allez voir, en 5 minutes, je vais transformer votre usine. Et l'autre ne sait rien du tout. Vous croyez que le patron va lui donner le travail? Qui serait insensé pour cela. 2 minutes après, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien du tout. Qui va-t-il chercher? Des hommes éprouvés qui ont été testés et qui, dans ces épreuves, ont appris des leçons et ont persévéré et ont continué, ont appris des leçons, sont sortis purifiés, transformés, fortifiés. Voilà les hommes que l'on recherche. Voilà ce que Dieu recherche aujourd'hui. Mais pour beaucoup, la moindre épreuve, pouf, il n'y a plus personne. Plus personne. On rentre dans un tunnel. C'est le tunnel de la dépression. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Où tu es? Ah ben, je suis dans le tunnel actuellement. Et où tu vas? Ah ben, je ne sais pas où je suis, justement. Je ne sais justement pas où je suis. Ah mais c'est mon épreuve. C'est comme ça, que tu subis ton épreuve? L'apôtre Pierre disait, puisqu'il le faut, vous devez passer par là. Puisqu'il le faut, il est dit dans l'épître Pierre. C'est une nécessité. Ah bon? Je m'en passerai bien. Non, justement, tu ne peux pas t'en passer. Et c'est parce que on essaye de s'en passer qu'on n'est pas formé, qu'on n'est pas qualifié. Car c'est dans l'épreuve que l'on fait ses preuves. Avons-nous compris cela? Et Dieu veille sur l'un et sur l'autre. Vous serez éprouvés. Vous serez testés. Apparemment, vous aurez l'impression que c'est les Juifs ou les Grecs ou le diable et autres. Mais au-dessus de tout cela, c'est Dieu qui vous teste. Parce que Dieu est souverain. Amen. Et ne commencez pas à dire, oh là, c'est le diable, c'est ceci. Et puis vous n'apprenez jamais rien du tout. Ça peut être le diable. Mais au-dessus de cela, Dieu veut t'apprendre une leçon. Dieu veut que tu réagisses bien. Ta foi doit dominer les circonstances. Et non pas les circonstances dominer ta foi. Amen. Allons un peu plus loin. Qu'est-ce que nous avons après? Et au milieu des épreuves, vous savez que je n'ai rien caché. Soulignez bien cette expression, je n'ai rien caché. Qu'est-ce que nous voyons là? Un serviteur fidèle. Je n'ai rien caché. Rien caché. Aujourd'hui, la grande tentation est de cacher beaucoup de choses. Comme je le dis souvent dans certaines Bibles, les passages qui sont soulignés, ce sont que des passages où il y a des bénédictions. Des bénédictions, des interventions divines. C'est que ces passages-là. Et tous les passages où il y a obéissance, consécration, sanctification, c'est tout blanc. Tout blanc. Rien n'est souligné. Et c'est là la tragédie de beaucoup de ministères et de vie chrétienne. Je n'ai rien caché. Il faut être prêt à dire aussi bien ce qui plaît que ce qui déplaît. Il faut être prêt à dire aussi bien ce qui arrange que ce qui dérange. Êtes-vous prêt à le faire? Eh oui, il faut être là. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être rejetés. Ah, c'est ça leur problème. Si je dis ça, on va me rejeter. Tout le monde va être contre moi. Ah bon? Pourquoi t'as peur? Et pourquoi?
Si tous te rejettent, le Seigneur lui sera avec toi. Un homme avec Dieu est une majorité. 100 000 hommes sans Dieu, c'est une triste minorité. Qu'est-ce que tu as peur si Dieu est avec toi? C'est suffisant. On n'a besoin de rien d'autre. Je n'ai rien caché. Quelle transparence. Quelle droiture. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Une sixième qualité. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et je n'ai pas craint. Souligné, je n'ai pas craint. Là, il y a une autre qualité. C'était un prédicateur courageux. Je n'ai pas craint. La crainte de l'homme tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Un prédicateur courageux. Il n'a pas craint les Juifs. Et nous savons combien les Juifs, et puis non seulement eux, mais aussi les païens, combien ils l'ont poursuivi. Partout où Paul allait, il y avait soit un réveil, soit une révolution. C'était ou l'un ou l'autre. Soit on acceptait le message, soit alors c'était la ville qui était sans dessus-dessous. Partout où il allait. C'était comme ça. Et je n'ai pas craint. C'est merveilleux cela. Pourquoi tu n'as pas craint? Eh bien, parce que il n'avait pas craint à la peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'il était déjà mort en Christ. Il avait déjà accepté de mourir, comme on l'a dit. Alors, plus rien ne l'arrêtait. Je n'ai pas craint. Courage. Il faut du courage pour servir le Seigneur. Il faut du courage pour dire la vérité. Il faut du courage. Il y a trop de timides, trop de tièdes. Veillons à ne pas être de ceux-là. Je n'ai pas craint. C'était beau d'entendre cela de la bouche de Paul, n'est-ce pas vrai? Cela devait encourager ces prédicateurs. Il était là comme un modèle merveilleux, un exemple. Je n'ai pas craint. De qui as-tu peur? Pourquoi crains-tu? Si le Seigneur est ton berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ne crains pas, crois seulement. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il est là maintenant. Et il est là lorsque tu rentreras. Il est là, il l'a dit. Vis de telle sorte que tu crois ses paroles. Vis-le et tu en verras la réalité dans ta vie. Quelles que soient les circonstances, crois-le, il est là. Il l'a dit. Alléluia. Et si tu le crois vraiment, alors tu lui diras merci et tu le loueras de tout ton cœur. Alléluia. Et pour terminer, au verset 21, je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'était un homme qui avait un message entièrement biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prêchait le véritable évangile. Et le véritable évangile, c'est celui-ci. C'est prêcher la repentance et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous avons coupé ce verset en deux. Et on prêche aux gens, croyez au Seigneur Jésus. C'est tout. Mais on ne parle plus de repentance. Et partout où nous allons, c'est la maladie qui ronge les églises. On n'ose plus dire « repentez-vous » parce qu'on a peur que les gens s'en aillent. Et si les gens s'en vont, il n'y aura plus d'argent dans la caisse. Et c'est Mammon qui règne. On a peur. On déshonore le Seigneur. Mais ça, ça fait rien. Ça fait rien, ça. Mais il faut honorer ceux qui sont là. Et qui ne veulent pas obéir, en plus. Ceux-là, on les honore. Mais le Seigneur, lui, on peut le mettre de côté. Attention, on ne joue pas avec ce jeu-là. Si tu le mets de côté, un jour, tu sauras que c'est lui qui te mettra de côté. On ne joue pas avec ces choses. Ce que tu auras fait de Jésus sur cette terre, c'est ce qu'il fera de toi là-haut. Mm-hmm. Si nous le confessons ici-bas, il nous confessera devant son Père. Mais si nous le renions ici-bas, il nous reniera devant son Père et devant les anges. il avait un message qui était le vrai évangile. Parce qu'il y a de faux évangiles aujourd'hui. Qu'il dit seulement « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Vous allez dire « mais c'est pourtant c'est un verset ». Oui, mais on appuie sur quoi ? Si on expliquait au moins ce verset convenablement, « crois », mais on s'arrête à croire. Après, qu'est-ce qu'il est dit ? « Seigneur, Jésus ». Mais le Seigneur, c'est qui ? C'est Dieu. Avant de dire Jésus, il c'est d'abord Seigneur. Autrement dit, si je crois en Jésus comme le Seigneur, c'est qu'il est Dieu. C'est que je dois abandonner toute rébellion contre Dieu. Je dois soumettre ma vie à Dieu. Il est le Seigneur. Voyez-vous, c'est comme si la repentance était cachée là derrière, dans le terme Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit un jour, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Quand on dit « crois au Seigneur Jésus », ça, c'est vrai. Et tu seras sauvé. Mais c'est le Seigneur. Aujourd'hui, on dit « crois au Sauveur », simplement. Attention. Attention, on déforme l'Évangile. Et pourquoi on le fait ? Écoutez-moi bien, pourquoi on le fait ? Parce qu'on ne veut pas que les gens soient trop scandalisés. On dit « si je dis ça, alors ils vont me prendre pour un fanatique. Et puis, non, et puis ils vont me rejeter. Ah, c'est à ça que tu penses ? Ah bon ? Et tu ne penses pas au salut de l'âme de la personne ? Ça, c'est... Non ! Tu penses plutôt à toi ? Ah bon ? Quand on est prédicateur et chrétien, on ne pense pas à soi, c'est à l'autre, au salut de l'âme qu'on pense. Et on doit dire tout ce qu'on doit dire. Je n'ai pas craint d'annoncer la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance, vous savez ce que c'est ? C'est dire « plus jamais, c'est terminé ». Je me repens de mon péché passé. Plus jamais je retournerai à ce chemin-là, à ces passions-là, à ces idoles-là. Plus jamais. C'est fini. C'est une coupure définitive avec le passé, quel qu'il soit. Est-ce que vous entendez ça aujourd'hui ? Ça devient une rareté. Une rareté. Et voilà pourquoi nous avons dans les églises beaucoup de gens qui croient, mais qui ne sont pas changés. Avez-vous remarqué ? Beaucoup de gens disent y croire, mais ils ne sont pas changés. Pourquoi ? Parce que c'est une foi sans repentance. L'explication est là. « Ah, mais je crois, monsieur !» Et la personne qui vient vous voir, la cigarette au bec. « Mais vous savez, moi, je crois aussi au Seigneur Jésus. » Ou alors, l'autre vient. « Mais moi, je suis croyant aussi, hein ? Je suis croyant, moi. » Il est sous. « Jésus est mon sauveur. » « Ah bon ?» Il est ton sauveur et t'es dans cet état-là. Je crois. Vous croyez que j'exagère ? Ces choses existent. Ou ceux qui sont dans la drogue et qui disent « Mais moi aussi, Jésus est mon sauveur. » Mais où est ? Mais où allons-nous ? Il croit. On ne doute pas de ce qu'il croit. Mais avant de croire, on n'aura pas dit ce qu'il fallait faire. Qu'il se repente, comme Paul l'a fait. La repentance envers Dieu, parce que tu as déshonoré Dieu, tu as été rebelle contre Dieu, tu as fait ce que tu as voulu. Le péché, c'est quoi ? C'est faire ce qu'on veut au lieu de faire ce que Dieu veut. Et quand on réalise ce péché-là, « Mais Seigneur, j'ai vécu jusqu'à présent pour moi-même, et tu es Dieu, alors que je devais vivre pour toi. Crois au Seigneur. Ah, cela veut dire que maintenant... Je vais vivre pour toi, parce que tu es Dieu. Jusqu'à présent, j'ai vécu pour moi-même. Je me repens, j'abandonne cette voie mauvaise qui me conduit sur le chemin de la perdition. Et quand nous sommes prêts à nous repentir de tout cela, alors Paul disait, ben maintenant, pour que tu sois purifié de tous tes péchés, crois au Seigneur Jésus, son sacrifice à la croix, le sang a coulé pour te purifier, pour te laver de toute souillure. Mais le Seigneur ne pardonne pas le péché qu'on ne veut pas abandonner. Le péché que tu ne veux pas abandonner, il n'est pas question de pardon, mon ami. Et aujourd'hui, on dit, c'est bien, tout va très bien. T'as cru, c'est très bien. L'autre n'a rien abandonné, c'est toujours le même. Ses passions, ses idoles et tout. Vous allez à la maison, il y a encore des idoles. Et puis l'autre vient et il vous dit, mais moi, je crois au Seigneur. Alléluia. Et puis chante avec nous. Et vous savez, quand ils chantent très bien aussi. Ils chantent comme des anges à l'église. Mais quand vous allez chez eux, ce sont des petits démons. Vous leur dites quelque chose qui ne leur plaît pas, attention. Vous avez intérêt à mettre un casque sur la tête. Ça, c'est autre chose, c'est une autre affaire. Beaucoup de croyants, mais qui ne changent pas. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça existe. Tristement, malheureusement. Et combien de prédicateurs font les choses au sérieux en disant, mais mon ami, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu crois, mais où est le changement? Où sont les fruits d'une vraie repentance? Mais comme il n'a pas prêché la repentance, alors il est obligé d'accepter ce qu'il a. Et finalement, il tombe dans son propre piège. Il a voulu du monde, il l'aura. Mais ce sont ces personnes-là qui, un jour, produiront le plus de troubles dans l'Église et qui partiront avec 10, 20, 30 personnes. Alors il vaut mieux le chasser tout seul quand il vient que de le laisser et qu'il parte avec 20 personnes. J'ai prêché la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle belle prédication, quel beau message. Ça, c'est le véritable évangile. Tous ceux qui ne prêchent pas la repentance avant de dire « croyez au Seigneur Jésus », ils prêchent un autre évangile. Un autre évangile, parce que les gens ne sont pas transformés, ils sont toujours les mêmes. Ça, c'est un autre évangile. Ah, vous dites, mais moi, on ne m'a pas dit ça, moi. Non, vous êtes trop sévère. Ah bon, qui est trop sévère? C'est Pierre, c'est Paul qui est trop sévère. Et Jésus lui-même, quand il a commencé son ministère, les premières paroles dans Marc, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Les premières paroles, « Repentez-vous. » Pierre, rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, première parole, « Repentez-vous. » Quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit, c'est le premier mot qui vient. Quand on ne l'est pas, c'est le dernier. Et encore s'il vient un jour. Parce qu'on l'a oublié. Il y en a qui pensent que la repentance, c'est le remords. Ah ouais. Pardon. Ah, Seigneur, ah ouais, je te demande pardon. Mais dans le fond du cœur, on décide de ne jamais abandonner son péché. Et c'est là le problème avec beaucoup de gens. Ils confondent repentance avec remords. Le remords est en relation avec Judas. Judas a eu du remords, il ne s'est pas repenti. Et il est allé se pendre. Pierre s'est repenti et il est allé auprès de son maître dans la douleur, dans la repentance. Et il a pleuré amèrement sur son péché et il n'est plus retourné à ce péché. Tandis que Judas, au lieu d'aller au Seigneur pour lui demander pardon, il est allé se pendre. Ça, c'est le remords. Et beaucoup de gens ont du remords. Ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Dieu ne nous appelle pas à avoir du remords, il nous appelle à nous repentir. C'est à la repentance. Dieu ne veut pas que tu te morfondes dans ton péché, mais il veut au contraire que tu t'en repentes. Et après, c'est la délivrance. Après, c'est la foi dans le libérateur. Le sang de Jésus nous purifie. Le nom de Jésus vient à notre secours et nous délivre de nos idoles, de nos passions. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce qu'est un vrai chrétien. Je termine. Que ces qualités-là soient en chacun d'entre nous et en moi, en nous. Et nous resterons sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous. Pour certains, nous ne vous verrons plus jamais, mais nous vous donnons rendez-vous là-haut. Que Dieu vous bénisse et vous garde sur le chemin de la foi et de l'obéissance jusqu'à ce qu'il vienne. Amen.
Amen. La parole de Dieu est la vérité. La vérité absolue avec un grand V. Et elle vient de vous avoir été prêchée. Et maintenant, le Seigneur va confirmer cette parole en agissant au milieu de nous, en guérissant au milieu de nous quelques personnes. Peut-être nous pourrions nous lever dans sa présence.
Gloire
quand même.
À ton nom, Seigneur.
Un peu de respect, d'honneur devant le Seigneur.
Dieu de toute grâce et de toute compassion.
Si le président du pays était là, on se lèverait tous. Et le Seigneur, non. Alors Seigneur,
Alléluia.
Nous sommes devant toi.
Amen.
Et c'est toi qui as envoyé cette parole, Seigneur. Et par sa parole, il guérit. Il envoya sa parole et il est guéri.
Amen, amen, amen.
Et le Seigneur touche quelqu'un qui a des problèmes de poumons ici. des bronches obstruées. La puissance de Dieu est sur toi et des bouches, des bronches. Amen. Au nom de Jésus,
Alléluia.
Reçois cet attouchement du Seigneur et la guérison qu'il te donne.
Amen.
Au nom de Jésus, Alléluia. Merci
Alléluia.
Seigneur, merci Jésus pour ta puissance miraculeuse.
Amen.
Il envoya sa parole et il
Seigneur.
Est guéri. Quelqu'un qui a des calculs dans les reins, qui te font souffrir, tu fais des crises. Le Seigneur te voit aussi. Il connaît ton problème et c'est très douloureux. Eh bien maintenant, le Seigneur met son doigt sur ses calculs et les fait se dissoudre.
Merci,
au nom
Seigneur.
De Jésus et pour la gloire du ressuscité.
Alléluia.
Alléluia. Merci.
Dieu.
Gloire. Gloire à celui qui vit.
Alléluia.
À celui à qui tout pouvoir a été donné dans
gloire
les cieux et sur la terre. Quelqu'un
Alléluia.
Qui a un problème de vésicule biliaire.
Gloire à ton nom, Jésus.
Merci Seigneur. Parce que quand toi tu poses ta main,
oui, merci,
plus besoin Seigneur. D'opération.
Alléluia.
Le Seigneur pose sa main sur cette vésicule.
Gloire à ton nom.
Et la rétablit. Et la fait fonctionner parfaitement. Parfaitement.
Alléluia.
Merci Seigneur de ce qu'elle va fonctionner parfaitement, tu pouvoir
Amen.
Digérer parfaitement. Alléluia.
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 Merci
Seigneur.
Seigneur.
Gloire à toi Jésus.
Alléluia.
Quelqu'un qui a un problème
merveilleux,
d'un œil aussi, ophtalmologique, un début de cataracte, eh bien le Seigneur enlève ce voile aussi
gloire
devant ton œil.
Seigneur.
Merci Alléluia. Seigneur. Et là, je vous dirai que c'est vrai que nous avons vu le Seigneur ouvrir un soir les yeux de 7 aveugles à la fois dans une campagne. Nous savons que le Seigneur peut enlever les voiles devant les yeux. Alléluia, gloire à toi. Alléluia, Seigneur. Reçois la guérison, reçois l'attouchement du Seigneur dans ton œil. Merci, Seigneur. Et que cet œil ne te pose plus de problèmes. Et quelqu'un qui a des problèmes dans la colonne vertébrale, des douleurs lombaires qui t'empêchent de te baisser et qui te créent des douleurs. Seigneur, merci de poser ta main sur cette colonne vertébrale et de rétablir l'ordre dans ses vertèbres. Seigneur, ce n'est rien pour toi. Toi qui as créé les cieux et la terre, qu'est-ce pour toi? Qu'est-ce pour toi?
Seigneur, oui.
Oh Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance, ta force.
Amen, amen.
Et tu n'as pas de limite,
oui,
Seigneur, pas
vrai.
De limite du tout. Et quelqu'un encore, pour terminer, qui a de l'eczéma,
Alléluia.
Qui lui provoque des démangeaisons terribles, parfois insupportables, à se gratter jusqu'au sang. Eh bien, le Seigneur
merci,
fait sécher
Seigneur.
Cet eczéma
Alléluia.
Au nom de Jésus.
Amen.
Alléluia. Et nous te donnons toute la gloire,
merci,
Seigneur.
Seigneur.
Toute la gloire divine
Alléluia.
Et de saint. Nous t'adorons, nous te louons,
Amen.
Seigneur. Alléluia.
Oh, oui,
Alléluia,
adore,
Seigneur. Tu
Alléluia.
Es merveilleux, tu es glorieux.
Alléluia,
Alléluia Seigneur.
Adieu
merci,
pour la
Jésus.
Gloire. Donnons-nous tous la main pour terminer cette convention.
soir. Nous n'allons pas terminer cette convention tout de suite là, avant de faire quelque chose. Ce matin, nous avons reçu un beau message sur l'esprit de reconnaissance que nous devons tous avoir. Nous avons remercié le Seigneur, nous lui avons adressé notre reconnaissance. C'est à lui que revient, premièrement, toute la reconnaissance de nos cœurs pour ces 30 ans de convention et tout ce qui s'est fait durant ces conventions. Mais nous aimerions aussi remercier toute l'équipe parisienne, oui, avec Suzette Basse en tête.
Et qui nous ont soutenus.
Et qui nous ont soutenus, aidés de mille et une manières. Oui. Et nous leur demandons de se lever à leur, oui, place.
Pour qu'on prie pour eux.
Pour qu'on prie pour eux aussi. Et nous remercions tous ceux qui sont avec Suzette.
Suzette, oui.
Voilà.
Voilà.
Alléluia. Ils sont venus nous aider.
Et pendant des années.
Des années.
Avec fidélité.
Oui.
Et nous allons tous prier pour, oui, eux maintenant.
Amen.
Prions tous ensemble.
Étendons nos mains vers eux. Alléluia.
En demandant,
amen,
la bénédiction,
amen,
du Seigneur.
Seigneur. Alléluia, Seigneur.
Seigneur, merci.
Oh Seigneur.
Merci, Seigneur, de les avoir placés,
oui,
à côté,
Jésus,
de nous.
Jésus.
Tu sais qu'ils ont été,
amen,
une... un,
amen,
sujet,
amen,
de consolation et d'encouragement, oui, dans
tellement,
bien des situations.
Oh oui, Seigneur.
Seigneur, nous te demandons en retour de les bénir,
oui,
de les,
amen,
encourager,
amen,
de les fortifier,
amen,
et de,
Seigneur,
les diriger toujours plus,
alléluia,
près de toi,
alléluia,
sur le chemin de la vie éternelle.
Alléluia,
et qu'aucun,
alléluia,
ne manque au dernier rendez-vous.
Oui,
que,
surtout,
nous,
surtout,
que nous puissions tous les voir là-bas. Tous ensemble,
Seigneur,
que nous puissions,
Seigneur,
un jour nous courber devant,
oh,
toi,
Jésus,
agneau,
amen,
de Dieu,
amen,
et te donner,
Seigneur,
toute la gloire,
amen,
pour la dernière convention dans le ciel,
oui,
où là-haut une convention éternelle aura lieu, alléluia, pour adorer,
alléluia,
l'agneau de Dieu éternellement.
Amen, amen,
à toi seul,
amen,
soit la gloire,
Jésus,
et bénis,
allez,
tes enfants,
oui, Seigneur,
mais dès maintenant, Seigneur,
ah, oui,
et chaque,
alléluia,
jour de leur vie.
Seigneur, oui, je veux,
alléluia,
aussi te prier et de les bénir particulièrement. Et nous savons,
gloire,
que toi, tu ne manqueras pas de les récompenser.
Amen.
Tu ne dois rien à personne.
Oui, c'est vrai.
Et
c'est
quand,
vrai,
quelqu'un se consacre à toi, tu sais tellement, gloire, bien faire pour lui rendre au centuple ce qu'ils ont fait pour toi. Ce que nous ne pouvons pas faire, Seigneur, nous te faisons confiance.
Gloire,
toi, tu vas le faire merveilleusement,
alléluia,
délicatement, glorieusement.
Merci.
Seigneur, que leur famille en soit bénie.
Amen.
Du plus petit, jusqu'au plus grand.
Alléluia.
Que leurs enfants, petits-enfants,
merci, Seigneur,
puissent être bénis au travers de toutes ces personnes qui se sont consacrées à toi.
Amen.
Et à toi, nous te donnons gloire et nous te remercions,
oui,
pour,
Seigneur,
ta grande fidélité.
Merci.
Tu nous as gardés en vie, tous les uns et les autres. Mmh. Eux aussi.
Merci, Seigneur.
Tu les as gardés en vie. Merci, Seigneur.
Merci, Seigneur.
Seigneur, merci.
Ah,
pour la vie que tu nous as donnée, pour te servir.
Amen.
Et nous voulons continuer notre route, mmh, ensemble, même de loin. Il n'y a pas de distance pour,
merci,
toi.
Merci, Seigneur.
Et pour, entre nous non plus, Seigneur.
Mmh.
Nous voulons, Seigneur, garder précieusement, mmh, cette communion que tu nous as donnée ensemble pour,
alléluia,
te servir. Et te remercier du fond,
merci,
de notre,
Seigneur,
cœur pour ta présence pendant cette dernière convention,
mmh,
où tu nous as vraiment honorés de ta,
alléluia,
présence. Gloire et puissance,
oui,
à toi, Seigneur.
Merci, Seigneur.
Vous pouvez vous asseoir.
Amen.
Et on aimerait aussi remercier,
oui,
Yvette maintenant,
tout
et tout,
oui,
tous les musiciens là.
Yvette et tous ces enfants.
Oui, venez là,
merci,
donnez-vous,
Seigneur,
la main. On va tous prier pour votre famille, mmh, aussi.
Merci, Seigneur.
Oui. Nous avons été tellement heureux d'avoir cette famille de musiciens,
mmh,
avec nous,
oui,
qui,
voilà,
nous ont été d'un grand secours,
oui,
et ils ont besoin de toute la grâce,
amen,
de Dieu, les
tendez
uns et les autres.
Tendez les mains vers eux aussi.
Oui. Et les enfants qui ne sont pas là aussi,
prions
pour
eux aussi,
ceux, parce qu'il y en a d'autres.
Prions,
merci,
pour
Seigneur,
eux maintenant, Seigneur.
Merci, Jésus.
Merci,
prions pour tous. La famille Picot.
Merci de les avoir,
Seigneur,
mis à nos
merci,
côtés aussi.
Merci, Jésus. Amen.
Tu sais aussi combien ils,
oh,
nous ont été,
Jésus,
en,
Jésus,
bénédiction, Seigneur.
Jésus, amen, oh, amen.
Bénis-les en retour richement.
Oui, Seigneur, rends-leur au centuple.
Dans leur être tout,
Seigneur,
entier. dans leur vie de famille. Bénis-les, encourage-les, garde-les, fortifie-les, accorde-leur une grâce particulière. Visite-les, Seigneur. Merci, Seigneur. Durcis leur front comme du diamant. Que rien ne les arrête. Qu'aucun obstacle ne les arrête, Seigneur. Merci, Seigneur, de leur donner sagesse, de leur donner force, de leur donner persévérance. Et jusqu'à la fin, merci Seigneur de les garder bien unis ensemble, bien unis ensemble. Merci Seigneur, car c'est ensemble qu'ils seront forts. Ensemble vous serez forts. Ensemble vous pourrez continuer jusqu'au bout. Restez bien unis aux pieds du Seigneur et entre vous aussi. Et la grâce du Seigneur vous accompagnera.
Amen.
Alléluia.
Et ne baissez pas les bras. Vous dit le
Seigneur. Merci Seigneur.
Ne baissez pas les bras, j'ai pas fini. Vous dit le Seigneur.
Amen.
J'ai tout simplement pas fini.
Amen.
Je vais durcir votre front. Vous aurez encore des combats. Mais je durcirai votre front comme de l'airain.
Gloire à toi.
Et ensemble, marcher d'un même pas, vous donnant la main, vous soutenant l'un l'autre. Et rien ne pourra vous ébranler au-delà de ce que vous avez déjà enduré.
Oui.
Merci Seigneur, de ce que physiquement, tu poses ta main aussi Seigneur, sur Michael Seigneur.
Oui Seigneur.
Merci Seigneur.
Oui.
Seigneur, tu veux en faire ton serviteur, mais il a des problèmes sérieux Seigneur.
Merci.
Seigneur,
tu as une solution.
Restaure-le Seigneur.
Amen.
Pose ta main guérissante sur lui.
Seigneur. Relève-le.
Que cette maladie s'en aille de lui, Seigneur.
Amen.
Nous t'en prions au nom
Seigneur,
de Jésus.
Que ta puissance de vie,
c'est ton peuple qui le demande, Seigneur. Oui, que toute cette sclérose en plaques soit maudite au nom de Jésus. Par la puissance de Jésus.
Viens pour ta gloire.
Amen.
Puissance de résurrection.
Amen.
Pénètre
et son
amen.
Corps. Alléluia, Seigneur.
Merci.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Entre tes mains,
oh merci Jésus. Allez avec la force que je vous donne.
Alléluia.
Toujours les yeux fixés sur celui qui récompense.
Amen, amen, amen.
Alléluia.
Oui, Seigneur.
Alléluia.
Merci.
Ne regardez pas autour de vous.
Alléluia.
Ne soyez pas ébranlés par ce qui se passe autour de vous. Mais gardez les yeux bien fixés sur votre maître. Et Seigneur, que vous avez choisi de suivre. Seigneur, merci de bénir Benjamin qui va passer par les eaux du baptême, c'est ça?
Oui.
Oui, là, dans une semaine. Seigneur, merci.
Amen.
Merci pour sa consécration. Bénis-le particulièrement.
Amen.
Et Alléluia. Que cette journée soit pour lui marquante.
Amen.
Tu en fais ton serviteur aussi, Benjamin. Alléluia.
Gloire
oh Seigneur. Et David aussi. Et Emmanuel aussi. Alléluia.
Gloire
Alléluia, Seigneur. Merci,
Amen.
Jésus. Merci pour cette famille que tu as choisie. Alléluia,
Amen.
Jésus.
Ce Amen. Qu'il a commencé en vous, il l'achèvera.
Amen.
Faites-lui
Amen.
Confiance.
Amen, Seigneur.
Il est le fidèle.
Amen,
il
Jésus.
Ne vous abandonnera jamais.
Amen.
Restez bien près de lui.
Oui,
humble.
Toi, Jésus.
Et dans un esprit de serviteur.
Oui, Jésus. Amen.
Et le Seigneur fortifiera votre foi.
Amen.
Et vous gardera dans ses voies.
Alléluia, Jésus.
Pour qu'un jour,
Alléluia,
vous puissiez vous tenir
Seigneur.
Devant lui.
Amen.
Dans la louange et l'adoration.
Gloire à ton nom, Jésus.
Et une joie éternelle couronnera votre Amen. Visage.
Amen.
Que Dieu vous bénisse et
Amen.
Vous garde.
Amen. Amen.
Jour après jour.
Mm-hmm.
Jusqu'à son retour.
Amen.
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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Et maintenant, j'aimerais qu'on fasse encore une dernière chose. J'aimerais que Jean-Philippe et Corinne viennent avec nous. Vous savez, ça fait des années qu'ils sont notre bras droit. Sans eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui.
Oui.
Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Comment vous dire ? Ils ne pourront jamais leur rendre tout ce qu'ils font pour nous. Ils sont comme deux enfants qui nous aident, sans compter, sans compter. Mais le Seigneur voit tout cela. Nous voulons que vous priez aussi pour nous tous. Alléluia. Venez avec nous. Parce qu'ils sont avec nous.
Merci, Seigneur.
Oh, Seigneur, merci.
Parce que nous pouvons ensemble encore te louer, te bénir. Merci de les avoir mis sur notre chemin aussi.
Oui, c'est vrai.
Tu sais combien ils sont pour nous une consolation et un encouragement.
C'est incroyable.
Car sans eux, c'est vrai, incroyable. Nous ne pourrions pas faire grand-chose aussi.
Oui.
Seigneur, bénis-les en retour, oui, encourage-les et garde-les aussi fidèles jusqu'à ton retour. Que rien ne les arrête, épreuves, difficultés, incompréhensions, que rien ne les arrête.
Merci, Jésus.
Mais qu'ils puissent poursuivre aussi leur chemin fidèlement.
Amen,
dans l'épreuve comme dans la bénédiction. Garde-les fidèles.
Alléluia,
fidèles à toi, Seigneur, jusqu'à la fin.
Amen, Seigneur. Amen. Merci, Alléluia. Seigneur, de pourvoir aussi à chacun de leurs besoins.
Amen.
Le besoin le plus profond que tu connais,
gloire
Seigneur.
À ton nom, Seigneur.
Tu es encore le Dieu des miracles.
Amen.
Seigneur, tu l'as fait tant de fois.
Tu n'as pas dit
Seigneur,
ton dernier mot.
Seigneur, merci Jésus.
Tu n'as pas dit ton dernier mot.
Nous voulons te faire confiance.
Amen.
Merci Seigneur de pourvoir à chacun de leurs besoins.
Alléluia.
Et tu l'as fait déjà glorieusement pour toutes sortes de choses. Et nous voulons aussi te remercier pour tout ce que tu as fait pour eux.
Amen.
Déjà fait pour eux.
Merci.
Puissance à toi Seigneur.
Alléluia.
Amen.
Amen.